invite à chercher votre Bible, juste trois versets dans l'Ancien Testament, Ésaïe 53, versets 1 à 3. Ésaïe 53, versets 1 à 3. À ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Prions encore le Seigneur. Oui, nous sommes devant un passage, je peux dire, et certains théologiens disaient même, c'est l'évangile dans l'Ancien Testament. Et à moins que tu viennes à notre secours, nous ne pouvons pas saisir toute la portée. Et tu connais dans cette salle différents besoins que je ne peux pas combler. Mais merci pour ton Esprit Saint qui est présent déjà dans ceux qui croient. Et il convainc du péché, du jugement, de la justice de Dieu. Je prie à ce que tu ouvres leur cœur, ouvre le cœur, afin que nous puissions saisir ce tableau stupéfiant, ce tableau de ton Fils, décrit depuis 700 ans avant Jésus-Christ, qui est là, annoncé par le prophète Ésaïe. Et nous voulons voir le Messie en la personne de ce serviteur dont Ésaïe parle. Dirige moi-même, rempli de ton Esprit Saint Seigneur, afin que tu puisses agir par ta parole et qu'elle ne revienne à toi sans qu'elle ait accompli ton dessein parmi les cœurs qui sont ici ce matin. C'est notre prière et dans le nom de ton Fils, je te prie. Amen. C'est un passage prophétique et nous ne sommes pas tous familiarisés avec les langages qui sont dans ce passage. Et il me semble que c'est important d'avoir une lecture selon ce que dit le texte pour pouvoir saisir la portée de ce qui est écrit là. Parce que ça dépend. Si vous êtes juif messianique, non messianique, vous avez une lecture tout autre d'un juif messianique qui lit le même passage. Vous voyez ? Et donc, il est important pour moi de voir ensemble d'abord, une première partie, je dirais, découvrir qui sont les acteurs dans ces trois versets qui sont mentionnés, pour que nous ayons, bibliquement, dans ce passage, dans son contexte, voir qui parle, de qui parle-t-on, mais qui est le serviteur, il s'adresse à qui. Toutes ces questions méritent d'être posées. Donc, c'est la découverte des acteurs dans ce passage qui sont devant nous, qu'on vient de lire. Et deuxième chose, pour les chrétiens, nous allons nous émerveiller de la description du serviteur qui est mentionné dans ce passage. Donc voilà, premièrement, pour nous familiariser au langage et découvrir d'abord qui sont les acteurs dans ce passage. Donc, de qui parle le prophète quand il dit « Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ?» Ceux qui sont familiarisés avec la Bible, et quand il regarde le Nouveau Testament, pour lui, ça ne pose aucun problème. Il va savoir tout de suite de qui parle le prophète. Je vous invite à regarder dans Jean chapitre 12, versets 37 et 38. Donc, de qui parle le prophète? Donc, nous allons regarder l'application de ce passage qui est cité par notre Seigneur lui-même. Et nous lisons ça dans Jean 12, versets 37 et 38. Donc, je lis lentement. je vous fais une petite parenthèse dans la lecture pour que vous puissiez identifier exactement mais de qui parle le prophète. Hein, quand il parle, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Verset 37, malgré tant de miracles qu'il, vous pouvez mettre entre parenthèses, le Seigneur, avait fait en leur présence, il, vous pouvez mettre entre parenthèses, je vous laisse vérifier chez vous, et même sur place, les Juifs, je répète donc, malgré tant de miracles que le Seigneur avait fait en leur présence, les Juifs, ne croyaient pas en lui le Seigneur. Et regardez verset 38. Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe, le prophète, a prononcée. Cette parole, nous le trouvons où? Ésaïe 53, verset 1. Il cite, « Seigneur, qui a cru à notre prédication? À qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? » Ici, le contexte, c'est Jésus dénonce l'incrédulité des Juifs face à tant de miracles accomplis devant leurs yeux. Et si vous lisez un peu plus dans ce passage, Jésus vient de quitter Béthanie où il a accompli un miracle extraordinaire d'avoir ressuscité Lazare qui était mort. Et Jésus explique que ce qui était prédit il y a 700 ans par Ésaïe trouve maintenant son accomplissement dans sa personne parce que ces gens ne croient pas en lui malgré tant de miracles afin que ce que dit Ésaïe le concernant soit accompli. C'est magnifique. La Bible s'explique par la Bible. Regardez encore où ce passage de Ésaïe est cité dans Romains 10. Tournez votre Bible, versets 16 et 17. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Ah, on va citer Ésaïe maintenant. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Un petit exercice technique, mais ce n'est pas difficile. Hein? Il y a ce qu'on appelle un parallélisme ici, quand vous lisez le texte. Il y a un parallélisme quand vous lisez, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Il y a un parallélisme à ce « tous n'ont pas obéi ». Vous voyez? Et ce que dit Ésaïe, qui est en parallèle à cela, « qui a cru ?» Point d'interrogation. Vous voyez? Ça, c'est le premier bloc en parallèle. Et regardez le deuxième bloc. Entre la bonne nouvelle, hein, ils n'ont pas obéi à la bonne nouvelle, le parallélisme entre la bonne nouvelle et ce que dit Ésaïe, qui a cru à notre prédication? Notre prédication. Donc, vous voyez, d'une part, tous n'ont pas obéi et qui a cru? Et de l'autre part, la bonne nouvelle est notre prédication. Mais notre prédication, qu'est-ce que dit le texte? C'est la parole de Christ. Donc, il est facile de déduire que l'objet de la prédication auquel on n'a pas ajouté foi, ou auquel tous n'ont pas obéi, c'est le Christ. Parce qu'on parle de la parole de Christ, n'est-ce pas? Donc, la bonne nouvelle parle de la parole de Christ. Donc, il est facile d'établir, d'après ces deux passages que je viens de vous lire, que Ésaïe cite, donc dans le verset 1 de chapitre 53, il met exactement en évidence la personne qui est vue dans ce passage n'est rien d'autre que la personne du Christ qui est le Messie. Et la précision, s'il vous plaît, 700 ans qu'il a écrit ce passage, 740 environ. Donc, de qui parle-t-il? Il parle du Messie. Le Messie, c'est celui qui a été oint de Dieu. J'aimerais quand même attirer l'attention, comme je vous ai dit à l'introduction, ça dépend de votre lecture. Maintenant, j'espère que la parole vous convainc, mais eh bien, ici, on parle bien du Messie, en la personne du Christ, d'après ce que nous venons de voir. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des Juifs, dans ce que nous lisons, Ésaïe 53, ils n'identifient pas le serviteur en la personne du Messie souffrant, mais ils l'identifient à la personne à la nation d'Israël. Tout simplement, on va voir ça plus tard, mais ce qu'il faut important, donc, c'est de retenir que l'idée d'un Messie souffrant pour les Juifs, c'est inadmissible. Ils ne peuvent pas concevoir. Pour eux, siècle après siècle, ils ont entretenu le rêve d'un grand héros national. Pour eux, le Messie, c'est un grand héros national et qui serait de la descendance de David, comme les prophètes l'ont dit, et qui viendrait dans la gloire et la majesté pour conquérir les nations. et établir la paix dans ce monde. Ça, c'est la description du Messie que les Juifs attendaient siècle après siècle, après siècle, après siècle, jusqu'à aujourd'hui. Mais un Messie qui devrait souffrir et mourir par substitution pour les péchés de son peuple n'a jamais été en accord avec leur pensée, leur façon de penser. Donc c'est important de le souligner. C'est pour ça qu'il faut se familiariser dans le langage. Qui parle ? De qui parle-t-on ici ? On a vu donc que c'est clair, c'est admis, parce que 700 ans avant, on fait allusion en la personne de Christ que cette prophétie le concerne, suite à l'incrédulité des gens qui ont vu tant de miracles qu'il accomplit. Ou bien par l'apôtre Paul, ceux qui ont refusé de croire dans l'évangile qui parle du Messie, le Christ. Deuxième question, mais qui parle dans ce passage ? Qui parle dans ce passage quand nous lisons qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ? Ainsi de suite, ainsi de suite. Si vous revenez un peu plus en avant dans le passage, dans Ésaïe 51, 52, c'est clair que c'est l'Éternel qui parle. Je vous cite en référence, vous pouvez le noter juste, Ésaïe 51, 22. « Ainsi parle ton Seigneur, l'Éternel, ton Dieu. » Ésaïe 52, verset 3. « Car ainsi parle l'Éternel. » Je laisse la suite. Verset 4. « Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. » Ésaïe 52, verset 5. « Et maintenant, qu'ai-je à faire ? Dit l'Éternel. » Ces tyrans poussent des cris, « Dit l'Éternel. » Et la durée du jour... La durée du jour, mon nom est outragé. Verset 5 de 52. Verset 6, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom, le nom de l'Éternel. C'est moi qui parle. Donc c'est évident, c'est Dieu qui parle, évidemment, à travers de Ésaïe, n'est-ce pas, par sa bouche. Donc c'est Dieu qui parle. Et ce qui est. J'attire votre attention sur 52, verset 13 et 15, si vous avez votre Bible, verset 13. « Voici mon serviteur, donc Dieu qui parle à son serviteur, que nous venons de voir, que c'est la personne du Messie, prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. » Vous voyez les trois verbes ici ? Il montera, il s'élèvera bien haut, en hébreu, donc ces trois verbes, prophétiquement, représente la résurrection. Nous avons chanté dans les cantiques que nous avons eus tout à l'heure. L'ascension et la glorification ou l'exaltation finale à la droite de Dieu de son serviteur. Oui. Donc, de qui parle-t-on ? Du Messie en la personne du Christ. Qui parle ? C'est Dieu, par la bouche d'Ésaïe, si vous voulez. Et maintenant, qui est ce serviteur ? Évidemment, dans les versets 1 à 3 qu'on a lu ce matin, on ne voit pas le serviteur, mais si vous remontez juste 52, verset 13, « Voici mon serviteur prospérera. » C'est ce qu'on vient de lire. « Il montera, il s'élèvera bien haut. » Vous allez un peu plus loin, 53, verset 11. « À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. » Mais qui est ce serviteur ? Quand je vous ai dit, Ésaïe 52, 13, « Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. » Prophétiquement, représente sa résurrection, l'ascension et la glorification. Comment je peux le dire ? Regardez Jean 12, 32. Jésus lui-même qui parle, il dit ceci, « Et moi, Jean 12, verset 32, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Mais qui parle ici, c'est le Seigneur Jésus. Et si vous lisez le verset qui suit juste, il parle de sa mort bientôt qui va arriver. Et la suite, n'est-ce pas ? Comment je peux dire encore qui est ce serviteur ? C'est le Seigneur Jésus lui-même. Philippiens 2:9. Quand on parle de « il montera, il s'élèvera bien haut », nous lisons dans Philippiens 2:9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a, parlant de notre Seigneur l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il l'a souverainement élevé et a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il est élevé au-dessus de tout pouvoir, que ce soit dans le domaine visible, que ce soit dans le domaine invisible. Je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, C'est important de souligner, parce que des commentateurs et même des lectures, je vous ai dit, qui voient le serviteur comme le peuple d'Israël. Non, on vient de le voir que le serviteur, c'est la personne du Seigneur. Pourquoi ils ont un argument ou un argument de poids? Ils disent, si le peuple d'Israël, ça ne peut pas être le Messie. Un Messie qui souffre, c'est inadmissible, c'est pas possible. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont regarder le passage dans Ésaïe 41:8. Cherchez-le avec moi, Ésaïe 41, verset 8, qui cite de référence ou d'argument pour dire que si le Messie dont on parle dans le 53, le serviteur, il n'est pas le Messie en la personne du Christ, mais il est le peuple d'Israël. Et voilà, Ésaïe 41:8, « Mais toi, Israël, mon serviteur. » Ah oui, Jacob, « que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé. » C'est clair. Ah, ils ont raison. C'est vrai. « Mais toi, Israël, mon serviteur. » Ésaïe 44, verset 1. « Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur. » Ah oui. « Ô Israël, que j'ai choisi. » Donc, indéniable, dans ces deux passages, il est bien question du serviteur de l'Éternel en faisant référence au peuple d'Israël. Mais quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. Hélas, ce serviteur a raté lamentablement son vocation comme il est affirmé dans Ésaïe 42, versets 18 et 19. J'aimerais que vous regardiez ce passage. Et oui, on parle du serviteur dans des textes comme ici, où on fait allusion au peuple d'Israël. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, dans sa mission en tant que la lumière pour les nations, Israël a failli lamentablement. Et voilà le reproche qui lui a été fait en Ésaïe 42, versets 18 et 19. Sourd, écoutez, aveugle, regardez et voyez. Il va dire, qui est aveugle, sinon mon serviteur? Et je vous laisse chercher chez vous. Vous lisez Ésaïe 42, du verset 20 à 25. Et vous allez voir bien que le serviteur dont on parle qui est aveugle et sourd, c'est bien Israël. Je ne vais pas le relire le passage, mais je vous laisse vérifier vous-même. Qui est aveugle, sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie? Qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel? Oui, ce serviteur aveugle et sourd est bien Israël. Je vous ai dit, regardez le verset du chapitre 42, 21, 22, 24, 25. C'est écrit noir sur blanc. C'est bien Israël, mais qui a failli à sa mission. Oui, Israël, aveugle et sourd, est le serviteur qui a failli à sa vocation pour être la lumière des nations, comme je viens de le dire. Alors, il devient nécessaire que le serviteur de l'Éternel soit une personne qui remplisse la mission du salut. Le peuple d'Israël lui-même devient l'objet de sa rédemption. Jusqu'à présent, qu'est-ce que nous devions retenir? Nous devions retenir donc que le serviteur Israël, il a failli à sa mission. Mais la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, par contre, lui, est le serviteur qui a réussi sa mission en tant que rédempteur. Nous allons le voir. Dans le texte alors, nous avons répondu à trois questions. Le quatrième maintenant, quand il nous a, qui nous a, qui nous a, qui nous a, qui est le nous? Si vous regardez aussi dans le passage, il s'agit bien en premier lieu des Juifs. Parce que j'ai relevé du verset 1 à verset 6 du Ésaïe 53, j'ai souligné sur ma Bible et je l'ai transcrit ici, du verset 1 au verset 6 de Ésaïe 53, répété 14 fois, nous, nos. Et ça ne me dit pas, mais qui est le nous et le nos? Verset 8, il est question de mon peuple. Donc, il s'agit bien du peuple d'Israël. Mais quelque chose de fabuleux qui nous arrive à nous qui ne sommes pas juifs aussi. La Bible déclare, hein, dans le Nouveau Testament, par la bouche de l'apôtre Pierre, que vous, qui autrefois n'étiez pas un peuple, en parlant des non-juifs que nous sommes, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Donc nous pouvons nous voir, oui, les Juifs sont concernés par cette prophétie, mais en regardant plus loin, ça se rapporte à nous qui sommes maintenant le peuple de Dieu dans la nouvelle alliance. N'est-ce pas? C'est magnifique. Donc, dans tout ce questionnement pour savoir les acteurs, j'espère que vous êtes au fait et au clair maintenant, que nous comprenions mieux maintenant de qui parle le prophète ? Du Messie, et non pas Israël. Qui parle ? C'est Dieu, mais à travers la bouche d'Ésaïe, si vous voulez. Et qui est le serviteur ? Oui, Israël, mais il a failli à sa mission. Mais le serviteur dont il est question, c'est notre Seigneur, lui il a réussi, hein, n'est-ce pas ? Et les prophètes s'adressent à qui ? Nous, les Juifs, mais aussi nous maintenant qui sommes le peuple de Dieu. Important de faire un peu ce mise au point, que nous ayons la même lecture, mais maintenant nous allons nous émerveiller. Je vous amène maintenant, regardez votre Bible, Ésaïe 53, le verset là, et je veux qu'on regarde ensemble. Et dans cette contemplation, si je peux dire, contemplation, ce n'est pas vider son intelligence et se planer dans le vide. Contempler, c'est impliquer son intelligence à regarder ce qui est écrit, à s'émerveiller, et ça nous amène en louange à notre Seigneur, de ce serviteur, le Seigneur, le Messie. Donc la description du serviteur dans ce passage. D'abord, qui a cru à ce qui nous a été annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ? Je veux dire ici, ce serviteur, sa force était insoupçonnable. Pourquoi je peux dire ça ? Retenez, sa force était insoupçonnable. Pourquoi ? Parce que qui a cru ? C'était pas possible. Qui a reconnu ? Personne n'y voit quelque chose, n'est-ce pas ? Ici, quand on parle le bras de l'Éternel, il ne faut pas considérer dans le sens littéral que Dieu avait comme nous-mêmes un bras de chair, comme nous. Le mot en hébreu ici traduit tout simplement le bras de l'Éternel décrit la personne du Messie comme étant la source du salut et de la rédemption. Et j'aimerais vous montrer tout simplement à travers 4-5 passages où l'expression « bras de l'Éternel » est utilisée pour nous émerveiller qu'on n'a pas vu la personne du Messie quand il est venu il y a 2000 ans. Ils n'ont pas vu. Et pourtant, sa force insoupçonnable, elle était là. Psaume 98, versets 1 et 2. Ici, je dirais donc le bras de l'Éternel représente sa force. Et par sa force, il a pourvu au salut et a révélé sa justice. Regardez Psaume 98, versets 1 et 2. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras, et voilà les mots qui nous intéressent, saints lui sont venus en aide. Verset 2, l'Éternel a manifesté son salut, et il a révélé sa justice aux yeux des nations. Par cette force, dont personne n'a pu détecter. Et oui, il a pourvu au salut et révélé sa justice. Dans le psaume 77, verset 16, si vous voulez le noter, le bras de l'Éternel, ici cette force, va être illustrée dans sa capacité et son pouvoir à délivrer le peuple d'Égypte. Il est dit, par ton bras, voilà le mot qui nous intéresse, tu as délivré ton peuple, fils de Jacob et de Joseph. Troisième verset, utilisant encore ce bras de l'Éternel, c'est quand il a permis au peuple d'Israël, en sortant du désert, rentrer dans le pays promis Canaan, c'est ce bras de l'Éternel qui leur a permis de rentrer et de conquérir le pays. Et il est dit même, ce n'est pas de leur propre force, ni de leur capacité. Psaume 44, verset 4. Car ce n'est point par leur épée qui se sont emparés du pays. Ce n'est pas leur bras qui les a sauvés. Vous voyez ? Mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face parce que tu les aimais. Donc c'est le bras de l'Éternel et non pas notre propre force qui donne la victoire. Encore un autre passage où on utilise toujours ce bras. Ici, on va le manifester par son pouvoir dans la création. Jérémie 27, 5. C'est moi qui ai fait la terre, les hommes, les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance et par mon bras, voilà ce qui nous intéresse, étendu, je donne la terre à qui cela me plaît. Encore Jérémie 32, 17. Ah Seigneur, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Voilà le mot qui nous intéresse. Rien n'est étonnant de ta part. Et nous savons dans le Nouveau Testament encore, dans Colossiens 1, versets 16 et 17, que ce bras qui a créé ce que nous voyons aujourd'hui, il s'agit de la personne du Christ. Et oui, il est dit de lui, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, ça veut dire qu'il n'a été pas créé, il est Dieu de toute éternité. Et toute chose subsiste en lui, Dieu n'a pas seulement créé l'univers, débrouille-toi maintenant. Dieu a créé l'univers, il le préserve, il l'entretient, il contrôle. Vous voyez, c'est magnifique. Et donc, dans la personne de notre Seigneur, ce bras représente le Seigneur, n'est-ce pas, par tous ces exemples. Donc, force insoupçonnable. Mais deuxième chose que je vois dans le passage aussi, son ascendance indétectable. Il y a un mot, ceux qui sont familiarisés avec le langage prophétique, ici, il y a le mot ici, il s'est élevé devant lui. Devant qui lui? L'Éternel. Comme une faible plante, comme un rejetant. Ce mot à souligner, rejetant qui sort d'une terre desséchée. Donc ces expressions, surtout le mot rejetant, a une signification messianique, ça vise le Messie, en quelque sorte, dans la Bible. Regardez pourquoi. Ésaïe 11.1, il est dit, « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. » Mais qui est Isaïe? C'est le père de David, n'est-ce pas? Et un rejetant, et bien voilà notre mot, que Ésaïe cite dans le verset 2, « Comme un rejetant qui sort d'une terre desséchée. » Et un rejetant naîtra de ses racines. Et c'est magnifique. Encore, ça vise la personne de notre Seigneur. Regardez Paul en Romains 15, verset 12. Il va citer exactement Ésaïe 11, 1. Il dit ceci. Ésaïe dit aussi. Vous voyez, c'est Paul maintenant, plusieurs siècles plus tard, qui va magistralement, dans son argumentation, va se servir de ce passage. Et en disant, Ésaïe dit aussi, il sortira d'Isaïe, c'est-à-dire le père de David, un rejetant qui se lèvera pour régner sur les nations et les nations espéreront en lui. Paul voyait par là, dans ce rejetant, le Messie qui va régner sur terre et encore à venir, pendant 1000 ans ici. Il le voyait dans ce rejetant. C'est magnifique. C'est une ascendance, le Messie qui est fils de Dieu de toute éternité et qui va régner. Et ils ne l'ont pas vu quand il était venu. L'expression faible plante, hein, ici parle sans doute de sa naissance dans la pauvreté, sa vie dans le dénouement, en gros, si vous voulez, de son abaissement. Pour dire qu'on ne reconnaîtra pas son ascendance exacte, jusqu'à ce que, dans les évangiles, nous lisons, les gens ouvrent les yeux. « Oh, mais qui dites-vous de moi ?» Les gens disent, « Mais tu es Élie, tu es ceci. Hein? » Et Jésus s'adresse à ses disciples, « Mais qui dites-vous que je suis ?» Tu es le Messie, le Fils de Dieu. Jusqu'à ce que ses œuvres témoignent, c'est là qu'il commence à voir. Mais certains n'ont pas cru. Ils l'ont rejeté. Certains ont cru. L'expression « la terre desséchée » nous fait penser à la pauvreté spirituelle d'Israël au moment de sa première venue. Vous savez, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y avait 400 ans de silence. Le peuple n'avait plus de prophète pour leur donner la lumière. Ils étaient dans une ténèbre spirituelle. Comment est-ce que Jean arrive, le prophète de l'Ancien Testament, Jean-Baptiste? Mais avant ça, dans les ténèbres complètes, plus de lumière. Dieu est silencieux. Et là, ça indique les circonstances dans lesquelles il se trouve spirituellement pauvre. Pauvre. Regardez aussi, non seulement sa force insoupçonnable, son ascendance indétectable, mais aussi son apparence indésirable. Regardez, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et ça, c'est magnifique, parce que quand vous regardez l'Ancien Testament, l'histoire du peuple d'Israël, pendant les déserts, Dieu les a nourris d'une manière surnaturelle. Et la manne, à l'époque, donc c'est comme des graines de coriandre, C'était quelque chose de menu, de tout petit, comme d'une gelée blanche, il nous est dit dans Exode 16, versets 14 à 15. Donc, cette manne, il ramasse tous les jours, et bien sans éclat, pour attirer le regard. Exactement. Le Seigneur, quand il était venu, prophétie d'Ésaïe, 700 ans avant, ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et pourtant, il s'est dit lui-même, quand je parle de la manne, à une circonstance dans son ministère, il disait lui-même, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jean 6, 35. Verset 41 aussi. « Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, « Je suis le pain qui est descendu du ciel. » Comme eux, ils ramassaient la manne qui descend du ciel. Jésus fait allusion à sa propre personne. « Je suis le pain de vie qui descend du ciel. » Et les Juifs, non, non, non. Un blasphème. C'est pas possible. Oui, les Juifs attendaient un Messie revêtu de toute sa gloire, mais le Messie avait une apparence où, physiquement, pas de splendeur, socialement ignoré. Et tout cela faisait de lui un être non désirable. Son apparence indésirable. Mais je vois dans le verset 3, son sort non enviable. Personne n'en veut comme cela, une vie comme cela. Et regardons. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Regardons rapidement. Un sort, qui veut une vie comme cela? N'est-ce pas? Quand je pense à mes enfants, je pense aux jeunesses autour. On veut exister. Maintenant, il y a Internet, je coupe un peu pour détendre l'atmosphère. On existe par ce qu'on produit. Les gens disent « like ». Oh, j'aime ça. C'est bon. J'existe plus, il y a des nombres. Waouh, c'est... Ça, c'est ce qu'on a envie, n'est-ce pas? Mais un Messie comme celui-là, méprisé, abandonné, homme de douleur, habitué à la souffrance, on détourne le visage, on dédaigne, on ne fait aucun cas. Qui ici dans cette salle veut être comme cela? Et pourtant, regardez, le Seigneur Jésus a été méprisé dès son enfance. Et ça, c'est magnifique. La Bible décrit les choses d'une manière inspirée par le Saint-Esprit. Il a été méprisé dès son enfance. Vous savez pourquoi? De par son lieu d'habitation. Je me rappelais quand on habitait, quelques années, à Senon, ville de Senon, il n'avait pas une bonne réputation. Tu viens des grands tours là, selon, où aujourd'hui la stigmatisation, tu viens du 9-3. Vous savez? Eh oui, Jésus, de par sa ville, aussi de naissance, le quartier, de son quartier d'habitation, Nazareth, était méprisé. On dit dans Jean 1, 45, verset 46, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui que Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. Fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Vous voyez, de par son habitation là où il a été stigmatisé et méprisé. Je lis aussi que le Seigneur était méprisé par les pharisiens, les religieux qui avaient l'autorité dans son époque. Hein, et à un moment, il faisait des miracles et les pharisiens attribuaient ces miracles au pouvoir des démons. Matthieu 12, 24. Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, prince des démons. Le Seigneur était méprisé par Hérode, le roi Hérode. Luc 23, 11. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris. Et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Oui, le Seigneur a été méprisé par les soldats du gouverneur, en tressant une couronne d'épines et en la posant sur sa tête. Et en plus aussi en le revêtant d'un manteau de pourpre. Jean 19, verset 3, il disait, « Salut, roi des Juifs !» Et lui, il lui donnait des soufflets. Pour en finir, le Seigneur a été méprisé par les chefs des Juifs et la foule lorsqu'il était sur la croix. Et Matthieu 27, 42 nous dit, « Il a sauvé les autres !» par mépris, et il ne peut se sauver lui-même si les rois d'Israël qui descendent de la croix et nous croirons en lui. non seulement mépriser, mais abandonner des hommes. Oui, si vous lisez la Bible, vous le savez, le Seigneur était abandonné par ses disciples. Il est allé tout seul sur la croix. Le Seigneur était abandonné même de ses frères dans la chair qui le qualifient à un moment d'insensé. Les parents de Jésus disaient en Marc 3:21 qu'il était hors de sens. Et ce qui est intéressant, c'est la première fois, je n'ai pas fait attention à ça en lisant, en cherchant un peu plus, abandonner des hommes. Les hommes ici, l'expression qu'utilise Isaïe, signifie les hauts placés. Et vous savez, les chefs religieux ne le reconnaissaient pas quand il était venu il y a 2000 ans. Seuls les méprisés, les pauvres, les gens de mauvaise vie, les humbles qui l'ont suivi. Vous savez, quelques années plus tard, l'apôtre Paul disait, en parlant à l'église de Corinthe, « Considérez, frère, que parmi vous qui a été appelé, il n'y a beaucoup de sages. Il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. » À ce que je sache, dans cette salle, il n'y a pas quelqu'un si élevé ici. Et l'Église, de toute son histoire, était toujours composée de ces gens méprisés. Les faibles, les fous, comme des choses viles. Et vous savez, jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur Jésus demeure encore aujourd'hui dans le mépris et abandonné par l'homme aussi bien juif que non-juif. Et les frères, ceux qui suivent Jésus, aujourd'hui aussi sont méprisés et rejetés. Persécutés, comme le Seigneur lui-même avait dit dans Jean 15, versets 20 et 21. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Et s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom. Si vous le savez, à l'heure où nous parlons, ceux qui se réclament de Christ, mis en prison, parfois même au péril de leur vie, de leur famille. Et c'est encore d'actualité. Oui, il a été un homme de douleur, et habitué à la souffrance. Là aussi, c'est magnifique. Ici, le mot douleur, ici, c'était utilisé pour désigner la douleur provoquée, non pas par une maladie, mais par l'affliction et le fardeau de l'âme. Donc, je répète, en Exode 3.7, nous allons voir l'utilisation de ce mot. Il est employé pour désigner une douleur provoquée, non pas par une maladie, mais par l'affliction, le fardeau que pèse dans l'âme. Nous lisons dans Exode 3.7, l'utilisation de ce mot, « L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Voilà le mot, Mahov. « Je connais ses douleurs. » Par ailleurs, je ne veux pas vous donner tous les passages, mais ce mot qui est ici traduit « douleur » et aussi donc ne désigne pas une souffrance physique, mais surtout met l'accent sur la peine causée par l'angoisse. C'est ça qui est pesé là. Ou par le péché ou l'oppression. Exemple, Ecclésiaste 1.18, il est dit, car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Voilà le mot. Donc vous voyez, dimanche dernier, j'avais dit aux gens qui étaient en face, si vous vous posez beaucoup de questions, ça ne vous laisse pas tranquille. Ça va vous rendre anxieux, angoissé de savoir, mais où est la réponse, n'est-ce pas? Et là, Ecclésiaste le dit, ce qui augmente sa science, plus vous connaissez, plus vous êtes mal. Votre douleur augmente. C'est le mot qui est utilisé. Jérémie 30:15, Lamentations 1:18, je laisse chez vous. Ici, le mot encore utilisé, il est utilisé pour désigner aussi bien la peine que la douleur. Ça, c'est le premier mot que nous venons de voir, douleur, mort, mais maintenant habitué à la souffrance. Ici, il ne s'applique pas à la maladie physique, mais encore aussi au poids et à la douleur dans l'âme. Et dans Jérémie 6, 7 et 10, 19, ce mot explique le dilemme quand vous êtes divisé, quand vous êtes à l'intérieur, vous ne savez pas, vous êtes un homme divisé, hein, et non pas entier. C'est un peu l'idée là. Et il est dit ici, Jérémie 6, 7, comme un puits fait jaillir ses eaux, ainsi elle fait jaillir sa méchanceté. Il n'est bruit en son sein que de violence et de ruine. Sans cesse à mes regards s'offre la douleur, voilà le mot, et les plaies. Quel est le contexte? Vous l'avez vérifié chez vous. À cause de la violence perpétrée par le peuple, Jérusalem doit être châtiée par Dieu. Et il est écrit ici, le langage métaphorique et dit que sa méchanceté était si grande en Jérusalem qu'elle jaillissait comme les eaux d'un puits, la méchanceté. Et là, donc, Jérémie 10, 19, « Malheur à moi, je suis brisé, ma plaie douloureuse, mais je dis, c'est une calamité. » Voilà le mot encore, souffrance, « qui m'arrive, je la supporterai. » Ici, c'est Jérémie qui plaide, hein, pour son peuple, hein, que Dieu puisse, oui, corriger son peuple, pas l'exil en Babylone, mais que Dieu puisse traiter celui qui exerce aussi l'oppression sur son peuple. Et Dieu a répondu à cette prière deux versets plus tard. Mais revenons à Ésaïe 53, verset 3. « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. » Oui, le Messie connaissait tout des souffrances des hommes. Il connaissait bien sûr leurs souffrances sur le plan physique, mais principalement sur le plan spirituel. Lorsqu'Ésaïe déclare qu'il était habitué à la souffrance, ce n'est pas pour laisser supposer qu'il était un homme malade. Mais enfin, il s'était chargé de nos fardeaux. Il a donc ressenti, expérimenté nos souffrances. Comme je vous ai dit, ces deux mots expriment cette douleur intense qui pèse, qui divise, qui vous empêche de dormir, qui vous ruine. Et c'est de cela dont on parle ici. Cela ne se produisit pas uniquement au cours de sa crucifixion, mais aussi durant tout son ministère. Vous savez, à un moment, l'évangile, dans l'évangile, nous lisons, il pleure sur Jérusalem à cause de son état spirituel. Il pleure en voyant le peuple comme des brebis sans berger. C'est ce mot qui est indiqué ici. Il a ressenti pleinement le poids et le dilemme spirituel de l'être humain. Et telle est la vraie signification de cette phrase, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Le point central de Ésaïe 53, c'est que la personne dont il ne s'est pas seulement chargé des conséquences de nos transgressions et de nos péchés, le Messie, mais a porté nos transgressions et nos péchés eux-mêmes sur lui. Je répète, le point important, c'est que il ne s'est pas seulement chargé des conséquences de nos transgressions et de nos péchés, mais il a porté sur son corps nos transgressions et nos péchés sur lui. Et alors, qu'est-ce que ça doit susciter? C'est notre appréciation à son égard. Là encore, je regarde, nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Ça, c'était l'appréciation et la réponse que les Juifs de son époque, l'accueil qui lui était réservé. Il fut l'objet d'un profond dédain de la part des hommes. Il fut évalué à peu de chances. Pourtant, lui devrait avoir la louange, la gloire de la part des hommes, si je peux dire, de son époque. Et quand vous lisez dans l'Évangile, à quoi valait sa vie? La valeur de notre Seigneur aux yeux des principaux sacrificateurs, c'était que de 30 pièces d'argent. C'est avec de telles sommes que Judas a livré notre Seigneur aux mains des principaux sacrificateurs. Et pourtant, Marie de Béthanie a vu, et reste encore aujourd'hui, un exemple. Il a vu la valeur inestimable dans la personne de ce Messie. Pourquoi? Parce que dans Jean 12, 3, nous lisons « Marie, ayant pris un livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus. Elle lui essaya les pieds avec ses cheveux et la mesure fut remplie de l'odeur de parfum. » Oh, quelle leçon ça nous apprend? Quelle est notre appréciation de cette personne en le Messie qui est notre Seigneur? Pour les chrétiens, la réponse est donnée. Il est tout. C'est mon sauveur. Sa personne est inestimable, comme Marie l'avait bien vu, juste. Par contre, je m'adresse à vous. La première fois, peut-être, vous êtes confronté à la parole de Dieu, que vous entendez des messages parlant de notre Seigneur. Vous n'êtes pas certain pour le salut de votre âme? Sachez-le, qu'il a bu la coupe amère jusqu'à la dernière goutte lorsqu'il fut identifié au péché. Sur la croix, était séparé de Dieu à cause de vous, pour vous. Parce qu'il disait, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Eh bien, il est devenu un homme de douleur pour nous sauver. Parce qu'il a pris l'enfer que nous méritons sur lui, à notre place. À notre place. À votre place. Ceux qui ne l'ont pas reconnu comme le Messie, le Sauveur. Ésaïe 53, versets 4 à 6, indique bien que c'est nous. J'ai dit, les nous et le nous, c'est les Juifs d'abord, mais nous aussi. Cependant, ce sont nos souffrances. Vous pouvez vous identifier, ma souffrance, que je mérite qu'il a portée. C'est de nos douleurs, de ma douleur qui s'est chargée. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, pour mon péché. Brisé pour nos iniquités, pour mon iniquité. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Je suis guéri. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Je vous en supplie de l'accepter, si ce n'était pas encore le cas pour vous, par la foi, qu'il est le sauveur de votre âme. À cet instant, vous êtes sauvé, vous êtes passé de la mort, je parle spirituel, comme avait son peuple quand il était venu dans un état spirituel de ténèbres. Vous vous êtes transporté de la mort à la vie. Vous pouvez être en communion avec le Messie. Vivre chaque jour avec lui parce qu'il est vivant. Faites-le sans tarder. Mais pour ceux qui connaissent déjà, sauvés, c'est magnifique. La description de notre Sauveur doit nous émerveiller. Vous voyez cette description, je dirais, inaperçue, insaisissable, qu'on ne peut pas détecter. Nous le savons maintenant. Sa force qui était insoupçonnable, qui a reconnu le bras de l'Éternel, son ascendance comme un rejeton, son apparence indésirable, son sort non enviable, était là pour nous montrer que son abaissement à travers les souffrances a servi à son élévation à la gloire. Je répète, la description que nous venons de voir de sa personne était là pour nous montrer que son abaissement à travers ses souffrances a servi à son élévation à la gloire. Ici, je m'arrête juste pour illustrer ce que ça peut signifier, c'est-à-dire, c'est tout le contraire de l'idée que l'on fait de la gloire pour une personne, n'est-ce pas? Aujourd'hui, dans la pensée de tout le monde, quand on parle de la gloire, de quelque chose, de la gloire d'une personne, c'est que il est arrivé au sommet. Vous savez, il est ingénieur. Ah, vous savez, il est chirurgien, c'est mon chirurgien. Et vous savez qu'il est un DG, il est milliardaire. Ça, c'est la gloire. La lumière, le projecteur sur vous. On dit, n'est-ce pas, il est arrivé au sommet de la gloire. Donc, on l'attache tout naturellement dans notre concept de la gloire, ce qui brille. N'est-ce pas? Mais regardez ce que nous venons de voir. Ce que nous devons le voir, c'est tout le contraire. La gloire dans ce qui paraît insignifiant. La gloire dans ce qui paraît ridicule, la gloire dans ce qui ne brille pas. C'est ça, le Messie souffrant, le Messie qui a venu quitter le ciel pour venir sur la croix, mourir pour moi, pour vous. C'est ça, pour moi, ce dont nous devons nous émerveiller en tant que croyants. Ce n'est pas dans ce qui brille, mais dans ce qui est le contraire. Et c'est pour cela que nous allons prendre la Sainte Cène. Nous devrions être équipés de cette pensée que je veux me glorifier de l'abaissement de mon Seigneur. Je veux me glorifier de l'abaissement de mon Seigneur qui a quitté le ciel, venir sur la terre, mourir jusqu'à la croix. Comme Paul dit, Philippiens 2, versets 5 à 8, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Donc maintenant, j'espère que vous avez compris, ne soyez pas, ne courez pas, ne donnez pas toute votre vie à courir pour ce qui brille. Parce que le jour où la lumière ne sera plus sur vous, quelle est votre lumière? Qu'est-ce qui vous reste? Nous devons être animés de cet esprit, lequel, donc, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Il a les prérogatives de Dieu, comme son Père, dans le ciel. Mais il a mis de côté tout cela. Il est descendu. Il est dit, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est ça la gloire dans l'abaissement et nous devons nous glorifier. Prions le Seigneur. Oui, notre Dieu, nous te remercions pour ta parole. Le monde contrefait tout ce qui est la réalité. Aujourd'hui, on cherche la gloire par divers moyens, pour qu'on existe aux yeux des autres. Et le Seigneur n'a pas cherché ça. On l'a dédaigné. On ne voulait pas le regarder. On l'a méprisé. Et c'est notre sort, ceux qui veulent le suivre. Mais, comme disaient les apôtres, nous préférons, même dans cet état, plutôt obéir à Dieu et le glorifier, que d'être accepté et là, avoir l'approbation des hommes. Cherche-nous à nous imiter avec l'esprit de notre Seigneur, avec l'exemple de notre Seigneur. Et c'est ainsi que le jour, comme tu l'as décidé, tu vas